7h38, le projet de réforme des retraites est désormais connu, du moins dans ses grandes lignes, puisqu'il reste à négocier des détails et à affiner certains points clés de ce qui est présenté comme une révolution par le gouvernement. Fin des régimes spéciaux, mise en place d'un système universel de retraite par points, réaffirmation du sens de la cotisation et de la responsabilité envers les autres, pour reprendre certains mots prononcés jeudi dernier lors de la remise du rapport de Jean-Paul Delevoye au Premier ministre. Mais quel modèle de société ce système de retraite définit-il et de quel modèle politique est-il issu? Nous voyons ça ce matin avec notre invité, précisément le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, ce projet de réforme marque effectivement une volonté de changement important, puisqu'il est question de supprimer les 42 régimes spéciaux que la France connaissait jusqu'à maintenant, ou connaît encore. Mais il est important de préciser d'emblée que ce changement se fait dans une certaine forme de continuité, puisqu'on va allouer à cette réforme des retraites la même part de la richesse nationale qu'avant, c'est-à-dire à peu près 14% du produit intérieur brut.
Oui, effectivement. Le montant des retraites en France, à peu près 14%. Et vous avez raison d'indiquer que c'est un projet de société, c'est pas une réforme. Si c'était une réforme, il suffisait de changer soit les cotisations, soit la durée d'âge. C'est réellement un projet de société. Lorsque, en 1945, et je me suis permis de remettre dans mon rapport l'ordonnance de 1945 qui indique qu'à l'époque, les communistes et les gaullistes, après le désastre de la dernière guerre, on souhaitait mettre en place une protection sociale qui englobe la totalité des salariés pour leur permettre d'abord de voir une vie décente et aussi de lutter contre l'incertitude du lendemain. Et on voit bien le formidable rapprochement avec aujourd'hui l'incertitude du futur qui fracture ou fragilise nos sociétés dites occidentales. Et Larocque, qui était un des fondateurs, avec Croizat, Parodi, a écrit quelques dizaines d'années plus tard, les solidarités professionnelles ont emporté sur les solidarités collectives. C'était en même temps le New Deal de Roosevelt, Beveridge en Angleterre, Bismarck en Allemagne. Et là, ce qui est très curieux, c'est qu'au moment où le salariat sera frappé par l'intelligence artificielle, plus personne ne peut dire ce que sera l'avenir de sa profession. Incertitude sur les aléas économiques, sur la croissance. On a dans de nombreux pays aujourd'hui la réflexion sur la protection sociale du XXIe siècle. Et vous avez deux grandes écoles, les écoles anglo-saxonnes à laquelle nous n'adhérons pas du tout, qui consiste à dire, mais c'est vous qui individu devez être responsable de votre vie et vous prenez une assurance pour couvrir vos risques. Ou au contraire, c'est le choix qu'a fait le président de la République et qui est l'objet même de cette proposition, c'est nous devons accompagner toutes vos périodes de fragilité que nous allons tous connaître. Chômage, maladie, invalidité, interruption pour maternité, par une mutualisation collective permettant de faire face à tous les aléas. Et ça permet de pouvoir, à la fragilité d'une solidarité professionnelle sur une profession qui va bouger, que sera le statut des médecins dans 20 ans, l'intelligence artificielle va frapper les professions de la santé et du chiffre, à la fragilité de cette solidarité professionnelle qu'ont connue les agriculteurs, qui en 1945 ont refusé d'adhérer et qui aujourd'hui sont pris en charge à 85%. Nous offrons la solidité d'une mutualisation collective.
Alors on va voir, Jean-Paul Delevoye, si vous êtes la bonne personne pour faire l'alliance entre une certaine idée du communisme et du gaullisme, puisque vous venez de le dire, à l'époque, en 1945, c'était comme ça que ça se passait. Néanmoins, il reste un certain nombre d'incertitudes. Oui. Et en 1945, ça s'était pas si bien passé que ça. Vous venez de le dire, les agriculteurs sont pas venus dans le régime général et universel qu'on voulait à l'époque. Pourquoi ça marcherait aujourd'hui, alors qu'en 1945, ça n'a pas fonctionné?
Il y a toujours eu un débat au sein de la société française entre l'universalité et la solidarité professionnelle. Je vous rappelle que d'ailleurs, la CGT ne faisait pas de congrès sur les salariés, faisait des congrès sur les professions. Et que lorsque on était prêt à l'époque, y compris dans nos villages, on a tous des fêtes de village qui étaient des catégories professionnelles. Et lorsqu'en 1945, je rappelle l'histoire, nos aînés ont souhaité mettre en place, parce que l'universalité des droits avait permis le tribunal de Nuremberg, souhaitait mettre l'universalité des régimes. Et en 1946, une loi a été votée sur la globalisation de la sécurité sociale que sur la pression populaire, en 47, le gouvernement a défait cette loi. Parce que l'opinion n'était absolument pas prête à imaginer de partager avec une profession différente.
Et aujourd'hui, parce que tout est là, Jean-Paul Delevoye. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça peut être jouable? Et on verra tout à l'heure qu'une concertation va s'ouvrir dans l'automne. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir cette réforme sur ce point-là précis?
Il y a une soif très grande d'équité et d'universalité. Lorsque nous avons ouvert notre plateforme citoyenne, puisque la méthode que nous avons prise bien avant le grand débat était une méthode d'intelligence collective avec une participation citoyenne, il y avait deux grands sujets. Supprimer le régime des parlementaires, supprimer les régimes spéciaux. J'ai refusé de stigmatiser, mais nous allons effectivement englober dans le système universel ces 42 régimes, y compris les parlementaires et y compris les régimes spéciaux. La deuxième grande demande qui était faite, est-ce que ma retraite s'est calculée comme celle de mon voisin? En France, et vous évoquiez ça tout à l'heure, il y a un doute, il y a un soupçon, il y a une jalousie sur l'autre. L'autre est toujours mieux traité que moi. Et là, nous allons apporter les mêmes règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système actuel, c'est qu'à cotisation équivalente payée tout au long de votre carrière, vous n'avez pas la même retraite. Demain, la même règle s'appliquera à tous, avec quelque chose de plus simple. Au lieu d'avoir 5, 6, 7, 8 caisses, parce que vous avez 5, 6, 7, 8 professions, vous aurez une caisse, un capital point par an, une liquidation et une lisibilité. Et les règles seront identiques par rapport à celles de votre voisin. Et l'on voit bien que la retraite sera le reflet de votre travail, ce qui était une autre demande qui a été faite. Et donc aujourd'hui, si peut-être on a du mal à penser à l'universalité, je reconnais que on a absolument besoin de retrouver le bien commun d'une nation. S'il n'y a pas un bien commun, il n'y a pas de solidarité. Le bien commun de la planète est en train aujourd'hui d'émerger chez nos jeunes générations. Je m'en félicite parce que, à partir du moment où on sait que ce bien commun est important, nous nous sentons responsables et solidaires de sa préservation. Et aujourd'hui, le bien commun, c'est le bien-être. Dans une société qui est en souffrance, puisque tout à l'heure j'entendais votre collègue sur l'Ukraine, on parle de l'humoriste, en réalité, les sketchs qu'il prenait, c'était contre la corruption. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui un basculement complet, non pas contre les pouvoirs politiques, contre les pouvoirs politiques corrompus, ou celles et ceux qui ont trahi, et qui ont donné plus la conquête du pouvoir en priorité par rapport à un projet politique. Or aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on sent bien qu'il y a une maturité de l'opinion, qui a parfaitement compris qu'il fallait concilier l'intérêt collectif et l'intérêt particulier, parce que là, on rentre dans la partie délicate. Je pense que l'opinion a compris la pertinence des objectifs politiques que nous proposions, avec plus de solidarité, plus de redistributivité vis-à-vis des carrières faibles, heurtées vis-à-vis des femmes, etc. Par contre, maintenant, les gens vont nous dire, très bien, mais à quel moment je peux partir à la retraite et avec quel niveau de pension? Et l'on voit bien les mois des avocats, parce que la lecture fait qu'effectivement, ils peuvent considérer que ce système va être pénalisant pour eux. Or, ce qui est important, c'est qu'à partir de cet objectif, nous travaillons maintenant sur les chemins de convergence, sur le temps qu'il faut, et comme nous sommes prêts à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qui n'est pas possible dans l'immédiat est possible sur une transition plus longue.
Alors on va déplier cette réforme, Jean-Paul Delevoye, si vous le voulez bien. Le nombre de retraités va augmenter, très probablement. Leur proportion par rapport aux actifs va augmenter de manière encore plus large. C'est donc une baisse des pensions qui se profile. Ça fait partie des reproches qu'on fait le plus communément à votre projet de réforme.
J'entends cet argument pour le reprendre et très clairement reprendre. 30% de retraités en plus, maintien de la répartition et donc mécaniquement baisse des pensions. Ce raisonnement, quand vous l'analysez dans le...
C'est dû au fait qu'on va garder le même taux de cotisation.
Alors, il est rationnel si vous ne changez pas les paramètres. Mmh. Or, qu'est-ce qui est important d'abord, c'est quelle sera l'évolution du PIB.
On ne le sait pas.
Donc, il est... Deuxièmement, la France est un pays qui vieillit, mais qui a une dynamique démographique forte. En Allemagne, c'est l'inverse. Vous avez un vieillissement plus une dynamique démographique faible. Or, l'Allemagne va consacrer 2 points de PIB en plus pour faire face au vieillissement. C'est-à-dire qu'ils vont passer de 12% à 14%. Nous avons un vieillissement actif. Et la projection du Conseil d'orientation des retraites a montré qu'on pouvait parfaitement garder cette part de PIB, voire même la diminuer, tout en ayant une augmentation systématique des pensions. Et il est évident qu'ensuite, il y a un paramètre d'âge. À quel âge partirons-nous ? C'est clair que si vous maintenez votre départ à l'âge, effectivement, c'est un élément de déficit ou c'est un élément de fragilité du système.
Jusqu'à maintenant, on essayait d'atteindre un niveau de pension, Jean-Paul Delevoye. Oui. Ça, c'est le système actuel des retraites en France. Non. On voulait fixer un niveau de retraite. Maintenant, on va fixer un niveau de cotisation sans forcément avoir de vision sur la valeur de conversion des points qu'on va acheter tout au long de sa carrière. C'est un changement de philosophie qui est majeur dans le cadre de cette réforme.
Merci de me permettre de comparer le système actuel avec le système que nous proposons. Le système actuel est aussi un système individualiste, puisque c'est en fonction de la durée de vos cotisations, c'est en fonction de votre salaire de référence, 6 mois ou 25 meilleures années, que l'on calcule votre retraite. Donc votre retraite est aussi le fruit de votre travail, avec un inconvénient, c'est qu'il y a quelquefois des droits inutiles. Et que si vous ne travaillez pas 150 heures de SMIC, par exemple un étudiant, etc., eh bien vous perdez vos trimestres. La proposition que nous formulons, c'est de dire chaque revenu dégagera des points. Chaque point de solidarité vous permettra d'augmenter votre pension parce qu'elle sera monétisable, lisible et visible. Et ensuite, nous vous proposons au contraire, quel est le taux de remplacement de votre pension que vous voulez avoir au moment où vous partez à la retraite. Et nous gardons, par rapport à la droite qui avait tendance à vouloir reculer l'âge, avec une raison budgétaire et une rigueur comptable dramatique, parce que socialement c'était extrêmement préoccupant. Ou la gauche qui allongeait la durée de cotisation, qui revenait un petit peu au même. Le système actuel fait que si vous partez à 22 ans, que vous avez besoin de 43 ans de cotisation, votre âge à taux plein est à 65 ans. Et donc déjà aujourd'hui, à 62 ans, vous avez 15 à 20% de décote.
Donc on repousse nous et on laisse. Ça aussi, c'est une individualisation finalement, puisqu'on va dire à tout le monde, si tu veux garder suffisamment de points de retraite, il va falloir travailler plus. Chacun va décider de lui-même et de fait, ça va revenir au même de travailler plus.
C'est le système. Longtemps. C'est le système actuel. Et le système actuel, en plus, très pénalisant pour celles et ceux qui rentrent plus tard sur le marché du travail. Ceux qui font des études longues, qui sortent à 25 ans ou à 30 ans, plus 43 ans de cotisation, ils sont obligés d'aller jusqu'à 67 ans. Et donc beaucoup d'enseignants partent beaucoup plus tôt, parce que c'est un métier fatigant, et ils partent avec une lourde décote. Nous, ce que nous proposons et qui va rentrer en débat, c'est de dire, il y a un âge d'équilibre du système, qui consolide le système, parce que le système que nous proposons, c'est pour les jeunes. Les retraités ne sont pas concernés. Donc comment on réembarque la confiance des jeunes, qui aujourd'hui a plus de la moitié, disent comme je vais payer pour une retraite que je n'aurai pas, autant que je prenne une capitalisation, qui est le système dont nous ne voulons pas. Sauf que, et donc, à partir de ce moment-là, nous proposons un âge d'équilibre à 64 ans.
Pour l'instant.
Pardon?
Pour l'instant. Oui, mais envisagez à 63 il y a quelques mois.
Âge, ah, ben attendez. Il a déjà. Quel est l'âge de départ actuellement constaté? Hors catégorie.
63 et quelques.
63,4 ans. Mm-hmm. Quelle est la projection du Conseil d'orientation des retraites sur l'âge à 2025? Moi, je raisonne 2025. 2025, le corps nous dit c'est 64 ans. Donc on voit bien qu'on épouse la trajectoire et on n'a pas terminé du tout les effets Marisol Touraine qui vont s'arrêter à la génération 73. Donc mécaniquement, il y a déjà un report. À partir de 64 ans, nous limitons la décote de celles et ceux qui sont à 62 ans à 10%. Donc on améliore le système. Deuxièmement, 20% des femmes, parce qu'elles ont de petites retraites, vont jusqu'à 67 ans. Pour annuler la décote. Nous allons rapprocher cette annulation de la décote de 67 à 64 ans. Et donc, vous voyez bien que le vrai souci qui reste, c'est le travail des seniors. C'est celles et ceux qui, à 62 ans, sont au chômage. Nous préservons les carrières longues. Nous préservons le départ anticipé des invalides et des handicapés. Nous améliorons même la situation des invalides dans la fonction publique, puisque dans la fonction publique, dès que l'on constate que quelqu'un est invalide, on le met en retraite anticipée. Nous allons prolonger par une pension d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite pour leur permettre d'acquérir des droits. Donc, le système que nous proposons est un système qui concilie la solidité du système pour embarquer la confiance des jeunes, l'adaptation à l'espérance de vie et une amélioration que je crois assez importante de solidarité et de dimension sociale.
Quel type de pilotage pour cette réforme à l'avenir, hein? Quel type de pilotage, quels pouvoirs seront entre les mains finalement des gouvernements qui succéderont d'ici à ce que les plus jeunes de nos auditeurs partent à la retraite, Jean-Paul Delevoye? On voit bien que l'âge de départ à la retraite sera probablement repoussé en fonction, parce que c'est ça la philosophie de la réforme, en fonction de l'espérance de vie.
Dont on dit qu'elle stagne aussi aujourd'hui. Hein.
On aura aussi un pilote dû aux conditions de travail, probablement. En tout cas, la condition de en bonne condition de santé, effectivement, l'espérance de vie baisse. Il y aura aussi un pilotage sur le niveau de cotisation, ou plutôt sur le niveau des.
Sur les niveaux de cotisation. À partir du moment où on embarque dans le régime universel la quasi-totalité des salariés, on peut leur permettre une assiette convergente, c'est-à-dire que les fonctionnaires doivent, comme les salariés, pouvoir cotiser sur la totalité de leur salaire, primes comprises. Nous allons avoir le même taux de cotisation, 28,12, 60% à la charge de l'employeur, 40% à la charge de l'employé. Et pour les artisans indépendants libéraux, leur permettre jusqu'à 40 000 euros par an de cotiser comme les salariés de façon à pouvoir bénéficier à 100% des outils de solidarité que sont notamment le minimum contributif qui est très important pour les artisans, pour les agriculteurs et pour les indépendants. La question ensuite que vous posez, et qui est essentielle à mes yeux pour embarquer la confiance dans la gouvernance, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre des pouvoirs et des responsabilités entre le gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux. Je ne conçois pas une gouvernance d'un système qui serait uniquement aux mains de budgétaires ou aux mains de politiques. Il faut trouver un juste équilibre pour faire en sorte que celles et ceux qui payent les cotisations, employeurs et salariés, soient aussi responsabilisés dans la gouvernance, dans la gestion de ce système des retraites.
François Fillon a été beaucoup cité ce week-end par rapport à ce système de retraite par points, quand il disait que c'est un piège finalement, la retraite par points, il suffit de faire varier la valeur du point, et puis on s'en sort bien, on va pouvoir augmenter comme ça les niveaux, ou en tout cas la différence entre le niveau de cotisation et la valeur de service.
Vous savez, j'ai tellement entendu ce slogan politique qui n'avait des buts que de susciter des émotions électoralistes et qui n'était appuyé sur aucune vérité scientifique que je n'accorde pas beaucoup de crédit à ce genre de propos.
Alors pour les hauts revenus, Jean-Paul Delevoye, il y aura aussi un plafonnement pour les très hauts revenus
Il n'y a pas de plafond. Oui, système de la... trois plafonds, jusqu'à 120 000 euros.
Voilà, trois systèmes de plafond. Ce qui fait dire à certains qu'on a là peut-être un encouragement aussi au système de capitalisation dont vous disiez il y a quelques minutes que vous ne vouliez pas écouter. Michaël Zemmour, qui est maître de conférences en économie à l'université Lille 1, il était l'invité du Grain à Moudre jeudi dernier au micro d'Antoine Genton.
Les projections qu'on voit dans le rapport montrent des retraites qui se tassent, alors un relèvement par le bas si ces minima de pension sont relevés, et un tassement par le haut, c'est-à-dire des taux de remplacement pour les cadres qui diminuent. Ça, c'est l'intérieur du système. De ce point de vue-là, on pourrait dire il est plus redistributif, parce que si vous donnez des sommes proches à tout le monde, c'est plus redistributif. Mais dans le même temps, qu'est-ce qui va se passer ? Si les pensions apparaissent comme insuffisantes pour les salariés, par exemple les 50% de salariés les mieux payés, au-dessus de 1700 euros, il va y avoir une course à compléter sa retraite. Et là, pour compléter sa retraite, on peut faire de l'épargne, de la capitalisation, et là les inégalités rentrent par la fenêtre. Et donc c'est là-dessus il faudra avoir un vrai diagnostic, pas seulement de l'intérieur du système, mais aussi la capitalisation ou éventuellement la baisse des pensions pour ceux qui ne pourront pas y recourir.
Voilà, l'inégalité qui revient par la fenêtre, Jean-Paul Delevoye.
Alors, merci pour cette analyse, parce que, en réalité, moi, dès le départ, j'ai demandé à ce que des universitaires, des syndicats, m'interpellent par leur vigilance et leur analyse critique. Sur le système par répartition, qui est au cœur de notre projet, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps des représentants très importants du gouvernement allemand qui nous ont dit qu'à l'époque, ils avaient fait un choix plutôt de capitalisation par ce qu'on appelle les fonds Riester dans les entreprises et que quand ils regardaient l'augmentation du plafond qui sera le plus élevé d'Europe d'un système par répartition, ils ont salué notre initiative. Et donc, au contraire, nous renforçons la répartition en limitant la solidarité entre les salariés en dessous de trois plafonds de 120 000 euros. Au-dessus, les salariés de revenus importants, 350 000, paieront à partir du premier euro jusqu'à 120 000 euros leur cotisation classique et au-delà continueront à payer une cotisation déplafonnée de 2,81 pour financer la solidarité pour les autres salariés du système universel.
Mais la question c'est de savoir si ça va pas casser le système par alors, un recours massif à la capitalisation.
Alors la réponse c'est qu'au-delà de trois plafonds, effectivement, il y aura la capacité de pouvoir avoir des régimes complémentaires, facultatifs, autorisés. Je vois le syndicat des pilotes très naturellement demande à ce qu'il y ait une complémentaire obligatoire parce qu'ils sont dans une catégorie professionnelle au-delà des 120 000 euros. Pour le reste, c'est au contraire la capitalisation qui est aujourd'hui de la répartition, avec une capacité pour chacun de liberté de choix. Chacun aura la faculté de pouvoir jouer sur son épargne, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, les Français sont déjà dans l'épargne, l'assurance-vie, très attirés par ce système de complément. Notre système, c'est au contraire, nous renforçons la solidarité des salariés du privé et du public, avec les mêmes règles, avec des métiers identiques, retraites identiques, et par la solidité d'un système de répartition dans lequel, quand je dis qu'il faut réembarquer le sens de la cotisation et de la solidarité, c'est que chacun doit prendre conscience que notre objectif numéro un, c'est de garantir la décence des retraites. C'est d'ailleurs, ça fait partie du code de la sécurité sociale, mais que les retraités doivent aussi être attentifs à la qualité économique du pays. Si la France va mal, les retraites iront mal. Et donc nous avons tous aujourd'hui à retrouver le sens du collectif, de la cohésion de la nation, et c'est probablement un des sujets politiques qui m'intéresse le plus dans ce projet, c'est comment éviter la fragmentation ou la confrontation d'intérêts catégoriels. Si demain nous ne prenons pas, nous ne retrouvons pas la confiance de nos jeunes, pourquoi nos jeunes continueront à payer pour un système auquel ils ne croient pas ?
Autre reproche qui est fait à ce projet de réforme, Jean-Paul Delevoye, un actif sur deux qui liquide sa retraite actuellement n'est plus en emploi, pour des raisons soit de évidentes, de chômage ou d'invalidité, ou pour d'autres raisons. Est-ce qu'à 62 ans, à ce moment-là, il n'y a pas un piège qui est tendu à ces personnes-là, qui vont rester dans la même proportion, évidemment, après la réforme ? Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ?
D'abord, il ne vous a pas échappé qu'en faisant la comparaison du système actuel par rapport au système futur, j'apportais un certain nombre d'améliorations, y compris autour de 62 ans. La seconde, c'est que nous avons, et le Premier ministre lui-même a lancé ce débat sur le travail des seniors dans les pays du Nord. Il y a un problème culturel qui est ancré, c'est que l'expérience est un enrichissement, alors que chez nous en France, quelquefois, on a du mal à investir dans la formation de quelqu'un de 55 ans parce qu'on estime que le temps de retour ne sera pas bon. Je crois qu'aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte que de 55 à 60 ans, le taux d'emploi des seniors a considérablement augmenté. Il nous reste un déficit entre 60 et 65 ans. Mais on a la même chose du côté des jeunes. Du côté des jeunes, nous travaillerons avec Madame Pénicaud pour faire en sorte que sur certains stages, le premier contact du jeune avec le travail montre que le travail rémunéré est aussi porteur de droits et avec des acquisitions de points. Et puis nous aurons une réflexion sur les nouvelles formes de salariat, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, qui, si l'on n'y prend pas garde, demain feront des droits très faibles pour ces jeunes qui se retrouveront à la retraite et aussi des recettes beaucoup plus faibles pour le système de protection sociale.
La réflexion à venir, la consultation à venir, on revient sur ces sujets-là dans un instant, juste après le journal de 8h, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, vous restez avec nous.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Et on retrouve notre invité Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites. Une réforme, nous disiez-vous tout à l'heure, qui se place dans une certaine forme de continuité avec le Conseil national de la résistance entre communisme et gaullisme. C'est ce que vous nous expliquiez dans la première partie de cette émission. Alors ça fait beaucoup réagir. Il reste beaucoup à négocier, Jean-Paul Delevoye, sur cette réforme des retraites, sur ce projet de réforme des retraites. Et il existe énormément de leviers sur lesquels vont jouer sans aucun doute les partenaires sociaux, notamment celui de la pénibilité. On vous accuse très souvent de ne pas prendre en compte la pénibilité. Que répondez-vous à ça ?
Le système universel, c'est les mêmes règles pour tous dans le secteur privé et dans le secteur public. À partir du moment où nous faisons disparaître dans la fonction publique des catégories actives, métiers identiques, retraites identiques, évidemment la contrepartie de cela, c'est de leur permettre d'accéder au compte pénibilité, au C2P, sur lequel il y a la capacité éventuellement de travailler sur les seuils lorsque vous êtes un travail de nuit qui est vraiment pénible. Dans le secteur privé, c'est 8 heures, dans le secteur public, c'est 10 heures. Il y a donc des points de convergence sur lesquels il faudra travailler.
Ensuite, est-ce que c'est pas trop peu est-ce que c'est pas un petit peu en fait que d'aller se contenter de chercher le compte pénibilité qui n'est pas suffisant ?
La discussion sur le système universel des retraites doit aussi permettre de montrer quel est l'impact du système économique. J'ai très clairement dit que le système de retraite aujourd'hui n'a pas pour vocation à corriger les dysfonctionnements du système économique. Par le passé, on a fait des plans sociaux déguisés. Lorsque l'on dit que les pensions des femmes et des hommes, c'est 40% d'écart, mais c'est le reflet de l'écart des salaires des hommes et des femmes dans le monde économique. Donc le monde économique doit assumer sa responsabilité sur le travail des jeunes, sur le travail des seniors, sur la réduction des salaires entre les hommes et les femmes, et évidemment sur un des sujets qui culturellement doit être une révolution, le bien-être au travail. On est souvent dans une société de la performance. Le monde de demain, c'est la société de l'épanouissement. Tenir compte de l'équilibre de la personne dans son environnement familial, mobilité et travail. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre culture. Pas assez. Beaucoup d'entreprises sont en train d'essayer de mettre en place des politiques qui, au contraire, tiennent compte et prennent en compte ce bien-être. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une deuxième chose, c'est que nous avons besoin de... Souvent, nous considérons en France le travail comme une souffrance. Ça devrait être, au contraire, on devrait avoir une motivation au travail parce qu'on s'y trouve bien.
Alors ça relève de la responsabilité des employeurs.
Et absolument, mais c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas demander aux retraites de corriger un dysfonctionnement qui se trouve dans le milieu économique. Et je n'ai cessé de faire cette interpellation. Il faut aussi que les choses soient très claires. Nous cherchons, nous, le plus possible à corriger. Nous allons faire une redistribution. Notre système actuel, il favorise les carrières ascendantes et longues au détriment des carrières heurtées et courtes. Nous allons redistribuer. Donc, il y aura des perdants et des gagnants.
Les perdants, ce seront effectivement les carrières ascendantes, mais il n'est pas sûr, avec la prise en compte de l'ensemble de la carrière, que les femmes soient gagnantes, puisque les carrières heurtées, comme on dit, concernent évidemment beaucoup plus les femmes, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir ce matin. C'est un vrai problème. Ces carrières-là ne seront pas forcément favorisé par la prise en compte de l'ensemble de la carrière, puisque si on cotise sur la continuité de sa carrière, bah les moments heurtés, ils vont venir se
Alors,
défalquer.
Ça, c'est l'argument qui consiste à dire on rajoute 17 ans de mauvaises années, d'abord c'est déjà un principe, aux 25 ans pour obtenir la carrière. Eh bien, une étude très profonde du Conseil d'orientation des retraites a montré exactement le contraire. C'est-à-dire que lorsque vous vous appuyez sur la totalité de la carrière, parce que, vous voyez ce débat, si vos 25 meilleures années sont au début de votre carrière ou à la fin, c'est pas du tout le même impact. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les droits que vous acquérez, dont vous êtes fait l'acquisition à 25 ans, quelle est leur valeur 40 ans plus tard? Ils sont aujourd'hui, ils évoluent sur l'inflation. Donc vous perdez 25 à 30% de vos droits. Le fait de pouvoir asseoir sur la totalité de la carrière fait que l'étude montre que ce sont c'est un peu technique, les plus petites retraites, les 40% des retraités les plus faibles vont bénéficier de cette assise sur la carrière. Autre point, si la retraite doit être le reflet de votre carrière, de votre travail, c'est donc sur toute votre carrière. Si la référence des 6 derniers mois pour les fonctionnaires, ça a été aussi un deal qui est absolument pathétique pour les fonctionnaires. On a dit, on va vous sous-payer pendant toute votre carrière et on va vous donner une bonne retraite. Soyez satisfaits. Ce contrat, il faut le revisiter. Il faut saisir cette opportunité pour revoir la gestion des ressources humaines. C'est ce que nous avons proposé. Le président de la République l'a dit. Et Jean-Michel Blanquer est très attentif à ça. C'est quel accompagnement de politique salariale pour faire en sorte que la sous-rémunération des enseignants puisse permettre de pouvoir être rattrapés de façon à pouvoir préserver leur niveau de retraite. Donc on voit bien que cet enjeu de société impacte évidemment directement l'enjeu de la totalité de la société sur le contact des jeunes avec les salaires, avec des droits. C'est cumul emploi-retraite au-delà de 64 ans. Tout travail mérite des droits. Nous permettrons à ce que la personne qui retrouve un travail momentané, partiel, puisse continuer à acquérir des droits pour améliorer sa pension. Et si l'on veut corriger, on va proposer un plafonnement. Je suis contre le plafonnement, mais qu'on rattrape par l'impôt, la redistributivité, parce que au cœur de notre système, c'est la lisibilité. Vous voyez tous les ans le nombre de points et vous allez pouvoir calculer, puisqu'on a fixé une valeur de points, 10 euros égale 1 point, et nous avons fixé le taux de rendement. C'est-à-dire que lorsque vous aurez 100 euros de cotisation, vous aurez pendant toutes vos retraites, tous les ans, 5,5 euros de retraite. C'est un rendement extrêmement puissant, dont d'ailleurs il faudra regarder s'il est pertinent ou pas au vu des différents éléments. Donc on voit bien que c'est un système simple, juste, lisible, qui est la reconnaissance du travail et qui corrige un certain nombre d'inégalités.
Comment est-ce que vous voyez la concertation qui va s'ouvrir maintenant, qui doit s'ouvrir maintenant? Quel type de concertation faut-il pour arriver à convaincre des gens qui ne sont pas convaincus, l'ensemble de l'arc politique, si on exclut la majorité, est quand même très sceptique, les partenaires sociaux sont très sceptiques, l'ensemble des syndicats, mis à part la CFDT, qui du bout des lèvres a exprimé peut-être un début d'accord, ou en tout cas un accord sur la philosophie. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour rattraper tout ce monde-là? Ça fait quand même beaucoup de gens qui sont opposés avec un certain nombre d'arguments à cette réforme.
Il faut tenir compte, et moi je suis ravi qu'il y ait un débat. Vous savez, je suis contre le débat politique en France aujourd'hui qui consiste à terrasser celui qui ne pense pas comme vous. Je suis pour la controverse. C'est toute la méthode que l'on applique depuis 2 ans. Et moi, je ne cessais d'interpeller les partenaires sociaux qui ont d'ailleurs joué le jeu. La CGT-FO qui manifestement, depuis le départ, ont montré qu'ils étaient opposés, nous ont aussi apporté dans les débats débats, énormément de richesses, tant sur le plan humain que sur le plan intellectuel. Et on a besoin de cette vigilance, on a besoin de cette interpellation. Et donc, nous allons, le Premier ministre m'a demandé de recevoir cette semaine, dans une demi-heure, je commence à recevoir les partenaires sociaux pendant 3 jours. Il aura ensuite la faculté de pouvoir s'exprimer, jeudi, pour voir comment nous traçons le calendrier futur, les concertations futures. Et donc, il importera dans le futur calendrier, moi je prône un calendrier relativement court, un projet de loi d'ici la fin d'année et un vote en début d'année prochaine.
Avant les élections municipales, vous y croyez vraiment ?
Moi, je vais vous dire, peu m'importe. Peu m'importe. Moi, si j'ai 1 ou 2 mois de plus, c'est 1 ou 2 mois de plus d'approfondissement et de discussion. Donc, je ne suis pas sur un projet qui porte sur les 25 prochaines années à 1 ou 2 mois près et je ne tiens pas compte des contraintes électorales. C'est autre chose, c'est un autre domaine. Par contre, il appartiendra de fixer très clairement les thèmes qui se traduiront par un projet de loi, et je souhaite que nous puissions avoir une clarté dans la scansion, dans les thématiques, dans les capacités de construction législative, afin que ce projet de loi soit le reflet vraiment d'une espérance sur une société plus juste et plus équilibrée.
Sur quoi vous seriez prêt à mettre votre poste dans la balance, Jean-Paul Delevoye, dans la première phase de la préparation de cette réforme? Vous aviez expliqué qu'un certain nombre de points pourraient, et notamment le report de l'âge légal, pourraient vous amener à démissionner, là, sur le temps qui s'ouvre maintenant, sur quel point vous mettriez votre veto?
Je suis quelqu'un qui ne met pas, je ne suis pas du tout caractériel, j'ai au contraire plutôt un esprit placide, mais qui consiste à ce que si la nature même du projet que pose le président de la République était dénaturée, c'était le cas du recul de l'âge légal, qui était de permettre de pouvoir apporter une réponse sociale. C'était aussi, pour moi, l'incapacité d'avoir des mesures paramétriques de court terme. Donc c'est un choix qui a été fait. Il n'y aura pas de loi de finances de sécurité sociale, mais nous devons embarquer l'équilibre du système en 2025. C'est aussi un sujet de discussion très importante. Et maintenant, il appartient au gouvernement et au président de déterminer qui porte le projet, qui anime. Pour l'instant, j'ai reçu un mandat du Premier ministre. Moi, je suis à la disposition pour servir ce projet. Tout ce qui le desservira ou le dénaturera, je le combattrai. Tout ce qui le servira, parce que je crois beaucoup à ce projet de société et au fait que la France peut-être porter à l'échelon européen, voire à l'échelon du monde, un modèle de protection sociale qui arrive à renforcer la cohésion sociale entre les jeunes actifs et les retraités et qui évite cette fragmentation auquel nous assistons les uns ou les autres.
Il faudra voir déjà s'il s'applique en France. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, d'être venu ce matin sur France Culture.